Bonjour à tous, c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Mounia Van de Castel, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Cyril Brenning. À la réalisation Marie Placé, prise de son Théo Gomard.
Entendez-vous l'écho par Maïlys Besri.
Comme tous les jeudis, notre série s'achève par un débat. Cette semaine, nous sommes remontés aux origines des théories de la liberté en économie, depuis les penseurs classiques jusqu'au controversé Friedrich von Hayek. En sciences économiques, le libéralisme se décline en d'innombrables branches, recouvrant des auteurs et des travaux hétérogènes. Contrairement aux idées reçues, la plupart de ces penseurs admettent l'importance d'un État fort, garantissant la liberté d'entreprendre et la loyauté de la concurrence. La liberté économique se heurte néanmoins à d'autres principes politiques et éthiques, comme l'exigence d'égalité ou le désir de sécurité. C'est la concurrence entre ces principes qui va nous occuper aujourd'hui jusqu'à 15h. Vous êtes sur France Culture et c'est l'heure du débat d'Entendez-vous l'écho. Avec nous aujourd'hui pour parler d'égalité et de liberté, François Dubé, sociologue, professeur émérite à l'Université de Bordeaux et auteur de La préférence pour l'inégalité, comprendre la crise des solidarités, publié au Seuil. Face à lui, Gaspard Koenig, professeur de philosophie, président du think tank Génération Libre et auteur du révolutionnaire L'Expert et le Geek, publié chez Plon. Avec nous enfin, Jean-Fabien Spitz, professeur émérite de philosophie politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de L'amour de l'égalité, essai sur la critique de l'égalitarisme républicain en France, 1770-1830, chez Vrin. À 14h50, Mounia Van de Castel sera comme tous les jours parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'économie. François Dubé, Gaspard Koenig et Jean-Fabien Spitz, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous. On commence souvent le jeudi par un débat avec un texte. Voici un texte de Jean-Jacques Rousseau, extrait du discours sur l'économie politique, lu par Arjuna Andrade de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
Ce qu'il y a de plus nécessaire et peut-être de plus difficile dans le gouvernement, c'est une intégrité sévère à rendre justice à tous et surtout à protéger le pauvre contre la tyrannie du riche. Le plus grand mal est déjà fait quand on a des pauvres à défendre et des riches à contenir. C'est sur la médiocrité seule que s'exerce toute la force des lois. Elles sont également impuissantes contre les trésors du riche et contre les misères du pauvre. Le premier les élude, le second leur échappe, l'un brise la toile et l'autre passe au travers. C'est donc une des plus importantes affaires du gouvernement de prévenir l'inégalité des fortunes, non en enlevant les trésors à leurs possesseurs, mais en ôtant à tous les moyens d'en accumuler. Les hommes inégalement distribués sur le territoire et entassés dans un lieu tandis que les autres se dépeuplent, les arts d'agrément et de pure industrie favorisés aux dépens des métiers utiles et pénibles, l'agriculture sacrifiée au commerce, enfin, la vénalité poussée à tel excès que la considération se compte avec les pistoles et que les vertus mêmes se vendent à prix d'argent. Telles sont les causes les plus sensibles de l'opulence et de la misère, de l'intérêt particulier substitué à l'intérêt public, de la haine mutuelle des citoyens, de leur indifférence pour la cause commune, de la corruption du peuple et de l'affaiblissement de tous les ressorts du gouvernement. Tels sont par conséquent les maux qu'on guérit difficilement quand ils se font sentir, mais qu'une sage administration doit prévenir pour maintenir avec les bonnes mœurs le respect pour les lois, l'amour de la patrie et la vigueur de la volonté générale.
Jean-Sébastien Spitz, est-ce que c'est vraiment... Jean-Fabien Spitz, est-ce que c'est vraiment là la question justement qui oppose ces deux principes de liberté et égalité? Est-ce que c'est vraiment la question individuelle, des choix individuels, des intérêts individuels contre l'intérêt collectif ou général?
Je pense que non. Il y a un texte aussi très célèbre où Rousseau dit que la liberté sans la justice, c'est-à-dire sans l'égalité, est une véritable contradiction. C'est-à-dire, il montre très bien que le fait que des individus soient libres dans une société, ça signifie que les autres, ceux qui les entourent, ont un devoir de respecter la manière dont ils agissent. C'est ça, être libre. C'est pas de pouvoir faire ce que l'on veut, mais pouvoir faire ce que l'on veut avec l'obligation pour les autres de respecter nos actions. Et les autres n'ont l'obligation de respecter nos actions que s'ils ont le droit de faire les mêmes. Donc l'égalité et la liberté sont rigoureusement inséparables. C'est ce que Rousseau essaie d'expliquer dans une société qui n'est pas égalitaire, c'est-à-dire où les droits des individus sont profondément proprement différenciés, même s'ils le sont pas sur le papier, mais s'ils le sont en fait, il peut pas y avoir de vraie liberté, parce que je ne peux pas avoir d'obligation de respecter les actions d'un tiers si je n'ai pas la même faculté d'agir que lui, ou la même latitude d'agir que lui. Donc les deux notions vont rigoureusement ensemble.
En tout cas, elles ne devraient pas du tout s'opposer, y compris en économie, Gaspard Koenig, puisque finalement, on le disait dans l'introduction, il n'y a pas vraiment de... Il y a une nécessité toujours d'avoir un État, aussi petit soit-il, dans l'économie. Tout le monde l'accepte désormais.
Bon, d'abord, pas tout le monde, puisqu'il y a quand même toute l'école libertarienne des années 70 qui remet radicalement en cause le rôle de l'État.
C'est une infime minorité.
Mais d'accord, mais je trouve que c'est un mouvement intellectuel assez intéressant et très riche aujourd'hui, d'ailleurs. Mais cela dit, le libéralisme classique est effectivement une philosophie de l'État, c'est très clair, qui assure les conditions de marché, le respect des droits de propriété, de leurs transferts, etc.
Il y en a toujours un peu, hein, si petit soit-il.
Non, et puis c'est pas parce qu'on est libéral qu'on veut réduire l'État à la sphère régalienne, par exemple, ça n'a aucun sens, mais simplement, c'est la question n'a jamais été de savoir s'il fallait la dérégulation contre l'État, qui est le mythe du discours public. La question, c'est quel type de régulation? Est-ce qu'on veut des régulations qui mettent justement, puisqu'on parle d'égalité, les acteurs sur un pied d'égalité en posant des règles du jeu qui soient les mêmes pour tous.
Donc en palliant éventuellement à des inégalités originelles.
Du moins en les mettant sur la même ligne de départ, c'est-à-dire sans intervenir dans la manière dont les secteurs économiques sont organisés. Puis le deuxième type de régulation, Colbertiste, ça va être au contraire d'intervenir dans les secteurs, soit directement en y mettant tout le poids de l'État, soit en les séparant, en les triant, en donnant à certaines obligations, à d'autres certains droits. Mais ce que je voudrais, si je peux parler du texte de Rousseau, il est vraiment intéressant parce que s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas libéral, pour moi c'est Rousseau. Et le vieux débat entre Locke et Rousseau, c'est le débat finalement fondateur entre une conception du contrat social fondée sur la liberté, c'est-à-dire sur l'appropriation des biens, et une conception du contrat social fondée sur l'égalité, c'est-à-dire sur l'expropriation, au contraire, de ceux qui sont trop riches. Et ça apparaît dès la conception du droit de propriété chez les deux auteurs, puisque chez Rousseau, la propriété, eh bien, c'est la naissance de l'injustice. C'est celui qui planta un bâton sur ce sol et qui dit « cette parcelle est à moi », enfin, je paraphrase mal, est à l'origine de tous les malheurs du genre humain. Alors qu'à l'inverse, pour Locke, c'est le mouvement de l'appropriation par le travail qui légitime la propriété, l'accumulation des richesses, et donc l'inégalité qui va en résulter, avec un certain nombre de caveats dont on peut discuter. Et du coup, il est naturel que Rousseau parle, comme il le fait dans ce texte, d'intérêt général, parce que pour lui, l'intérêt général, et c'est ça que moi je trouve très autoritaire, est supérieur, il le dit dans le contrat social, à la somme des intérêts particuliers. Et donc il en fait une sorte de... Et c'est pour ça qu'il parle de peuple et de patriotisme dans ce même texte. S'il est supérieur, ça veut dire qu'il donne à un certain nombre d'experts ou de gouvernants la possibilité de définir ce qui est supérieur à la somme des intérêts particuliers. Cette définition va s'ancrer dans l'idée d'un tout homogène, d'un peuple, quasiment d'une appartenance collective, qui va au contraire contraindre les choix individuels en fixant un certain nombre de valeurs communes. Et c'est, je pense, profondément contre cette notion que l'intérêt général est supérieur à la somme des intérêts particuliers que va s'inscrire le libéralisme et la conception lockéenne de la liberté.
Bah, tout dépend de quelle définition on donne aux libertés. Est-ce qu'on parle des libertés individuelles? Est-ce qu'on parle de la liberté qui peut être celle du marché, par exemple, Gaspard Koenig?
Alors, si on rentre là-dedans, c'est vrai que les libéraux classiques ont tendance à penser les libertés, comme disait Isaiah Berlin, comme liberté négative. La liberté négative, c'est la liberté, grosso modo, de faire, être libre de, c'est-à-dire être libre de toutes les influences extérieures et pouvoir faire l'ensemble de ce qui ne nuit pas à autrui. Et il congédie l'idée de liberté réelle, l'idée marxiste de liberté réelle. Aujourd'hui, il y a des... Donc c'est un peu, effectivement, c'est un peu radical parce que la question, quel est le sens du libre arbitre pour celui qui n'a rien ? Reste, je trouve, une objection valide et une objection fondamentale à tout ce système.
François Dubé, vous souriez à ce sujet. On le laisse finir sa phrase.
Je finis cette phrase. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui repensent la liberté réelle, mais d'un point de vue libéral ou libertarien, et qui du coup font du revenu universel la pierre angulaire, et pas seulement une petite mesure sociale, mais véritablement la pierre angulaire d'un nouveau système économique et social, où vous donnez effectivement aux gens une dose de liberté réelle, vous leur donnez les moyens de la liberté, et où en un sens, vous abolissez même l'idée d'inégalité. Pas l'inégalité, mais l'idée d'inégalité. Parce qu'à partir du moment où chacun est accompli, où chacun peut choisir ses propres normes et ses propres valeurs, Alors l'idée d'inégalité disparaît en tant qu'idée parce que l'inégalité suppose de se comparer dans un référentiel commun. Si vous avez l'impression, en d'autres termes, si vous avez l'impression d'avoir choisi votre de vivre la vie que vous avez voulu vivre, comme c'est mon cas par exemple, vous fichez complètement que certains soient très riches à côté de vous n'avez pas. Vous avez ce que Fan Paris s'appelle une société envy free, société libérée de l'envie.
Alors François Dubé, je vous ai vu vous redresser sur votre chaise à cette idée de concurrence entre les principes. Quelle est la liberté de celui qui n'a rien, nous a dit Gaspard Koenig. Effectivement, la liberté, elle dépend aussi, elle est aussi un peu économique d'une certaine manière.
Non, mais le... Tout le débat social au lendemain de la Révolution est organisé sur la tension entre ces deux termes. Je veux dire, on ne discute que de ça.
Peut-être et des trois, manières... peut-être liberté, égalité, justice.
Je reviendrai, ou fraternité, c'est-à-dire que la question qui est complètement évacuée dans ce que j'entends, c'est qu'on ne vit pas en société. C'est-à-dire on ne vit pas en société. Or, vivre en société, ça veut dire se sentir responsable des autres, avoir des dettes, des créances, éventuellement, si on est durkheimien ou weberien, des imaginaires partagés, toutes petites choses, d'ailleurs, qui pèsent beaucoup ces temps-ci, toutes ces choses-là. Donc, il y a quand même un problème là-dessus, c'est que tout simplement, il n'y a pas de société. Oui. D'ailleurs, je ne suis pas certain que chez Rousseau, il y en a une non plus, mais il n'y a pas véritablement ce qu'on appelle une société. D'autre part, ce qui pose un problème, c'est au fond la conception de la justice. D'un côté, on a eu toute une tendance plutôt européenne, plutôt ouvrière, plutôt social-démocrate, qui dit la justice sociale, c'est la réduction de l'inégalité entre les positions sociales par un vaste système de redistribution de protection. C'est ce qu'on appelait...
Donc l'État vient compenser.
La social-démocratie. L'État vient compenser.
Réparer, rectifier.
Ça ne veut pas dire qu'on annule le marché, pas du tout. Ça veut dire qu'on redistribue d'une certaine manière les ressources et les bénéfices. Et puis il y a l'autre conception de la justice qui est complètement différente, qui dit nous créons des conditions de liberté initiale à partir desquels les acteurs sont totalement responsables de ce qui leur arrive, et c'est la logique méritocratique. C'est-à-dire...
L'égalité des chances.
Vous avez gagné, tant mieux pour vous. Vous avez perdu, tant pis pour vous. Et c'est sur le plan idéologique, pardonnez-moi de parler comme au 19e siècle, c'est extrêmement robuste, parce qu'au fond, ça veut dire vous êtes responsable de vos victoires, mais aussi vous êtes responsable de vos échecs. Et ce qui compte, c'est plutôt d'ailleurs les échecs dans cette affaire-là. Alors ça pose évidemment un tas de questions.
Avec des conceptions d'ailleurs qui vont avoir plus ou moins, l'assentiment en fonction des périodes historiques.
Actuellement, c'est plutôt cette conception de la justice qui doucement s'installe plutôt contre la première. Moi je crois qu'il y a une tendance là-dessus. D'ailleurs, quand vous interrogez des étudiants de sciences sociales, que vous leur dites injustice, ils répondent de moins en moins exploitation. Ils répondent de plus en plus discrimination, c'est-à-dire non-égalité des chances. Et je crois que le débat est organisé entre ces deux, au fond, ces deux tendances, tout en sachant, évidemment, que se pose toujours une troisième question, qui est la question qui gêne le plus, d'une certaine manière, les théories de la justice, c'est « mais pour quelles raisons pourrions-nous nous sentir du destin responsable du destin des autres ?» Et c'est là qu'évidemment la pensée libérale telle que vous la formulez, c'est-à-dire dans ses formes quand même les plus libertariennes, les plus radicales, évacue complètement l'idée que nous vivons ensemble.
On revient à la question de la société.
On revient à la question de la société. D'ailleurs, Margaret Thatcher, grand philosophe politique, disait il n'y a rien qui ressemble à une société. D'ailleurs, ce qu'il en restait, elle a cassé avec une méthode absolument efficace.
Alors, Jean-Fabien Spitz, qu'est-ce que vous diriez-vous de cette question justement de concurrence de principe? On a l'impression que plusieurs échelles se confondent, l'échelle de l'individu, de la société, mais aussi tout ce qui l'aurait précédé, à savoir les conditions dans lesquelles il est né.
Je crois que là, sur ce que François Dubé vient de dire, il y a deux commentaires, il me semble, qu'il faut faire. C'est que la théorie de la justice que vous appelez alternative à celle qui a été pratiquée en Europe, c'est quand même une très 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 curieuse théorie de la justice, parce qu'elle repose sur des idées dont le fondement est absolument impossible à étayer. Par exemple, ça utilise la notion sur laquelle les individus sont responsables de ce qu'ils font. Une notion qu'il est absolument impossible de constituer ou à laquelle il est impossible de donner un contenu. La seule notion de responsabilité que nous pouvons utiliser, c'est celle qui est intra-institutionnelle. C'est-à-dire, dans un contexte institutionnel, lorsque vous avez de créer un certain nombre de conditions, il y a des choses que vous pouvez demander à des individus. Si vous avez un élève, par exemple, et que vous le placez dans une classe, vous pouvez lui demander de faire des exercices à condition que, effectivement, il ait suivi des classes antérieures et qu'il ait les capacités requises pour répondre aux questions que vous lui posez. À ce moment-là, il a la responsabilité de posséder les compétences que vous lui demandez d'avoir. Et de même, dans une société, si vous placez des individus dans un certain contexte, alors, effectivement, le contexte implique qu'ils ont certaines responsabilités, ils ont certaines choses à faire, et on a vérifié que le contexte leur permet de les faire. Mais vous ne pouvez pas juger les actions d'une personne indépendamment du contexte qui a été créé autour d'eux. Donc la notion de responsabilité, de même que la notion de mérite, en tant que notion pré-institutionnelle, sont dépourvues de contenu absolument.
Oui,
donc
mais
la seule, je termine, la seule théorie de la justice que l'on peut mettre sur la table, c'est la suivante. C'est une théorie qui dit que, en tant qu'ensemble humain, en tant que société, en tant que personnes qui vivent ensemble, nous voulons réaliser certaines valeurs. Nous voulons, par exemple, réaliser une certaine forme d'homogénéité entre les destins sociaux des individus.
Donc c'est un
C'est un projet. Nous organisons des institutions de manière à permettre aux individus d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Nous leur demandons de les atteindre, mais nous leur demandons de les atteindre après avoir vérifié que nous avons créé les conditions qui leur permettaient de les atteindre. Donc toute théorie de la justice est une théorie intra ou interne aux institutions, elle concerne la structuration des institutions. Mais une société ne peut pas se fonder sur des concepts pré-institutionnels. Et ça n'est pas un tribunal. Il ne s'agit pas de juger ce que les gens font.
Non, mais
il s'agit de les amener à faire quelque chose.
Je voulais juste préciser que, évidemment, je ne suis pas un défenseur de cette théorie.
Il faut établir que ça n'est pas une théorie de la justice.
Mais en même temps, elle a aussi plus que ça. C'est qu'elle est d'une certaine manière absurde, car il est impossible de distinguer, pour parler comme Dworkin, entre la liberté et les circonstances. Quand j'ai réussi, comment faire la part de ce qui relève de ma volonté et de la part de ce qui relève des circonstances, de la chance, de mon héritage génétique, etc. Donc, en même temps, on ne peut pas arbitrer. Le problème, c'est là, peut-être, la sociologie est un peu différente de la philosophie, le problème, c'est qu'elle est redoutablement efficace sur le plan social. Elle est redoutablement efficace parce qu'elle restitue l'imaginaire d'une responsabilité et d'une liberté aux individus, même si elle repose sur du sable.
C'est le mythe du self-made man.
C'est le mythe du sportif, c'est le mythe du self-made man, c'est le mythe du bon élève. Après tout, il est bon élève, peut-être qu'il a eu la chance d'avoir des parents bon élèves.
Ça, on le sait un peu quand même.
Si vous enlevez ça, la totalité de l'institution s'effondre.
Comment expliquer
moi, je crois que ces principes de justice sont des fictions, des fables, mais que ça marche.
Ah oui, elles sont efficaces. Voilà.
Ce que l'on peut constater, François Dubé, c'est que selon les époques, il y a eu une prééminence d'un principe sur l'autre en fonction du contexte historique.
Incontestablement, moi...
On peut peut-être parler de l'après-guerre, quand même.
Non, je pense que jusqu'aux années 80, on est en Europe dans le modèle de la justice, c'est massivement la réduction des inégalités entre les positions sociales. Et on voit bien que ce modèle est en train de s'affaiblir considérablement au bénéfice de ce qui n'est peut-être pas une théorie de la justice, mais de ce qui est un imaginaire de justice redoutablement efficace. Par exemple, quand on dit le devoir de l'État, c'est de permettre aux bons élèves des quartiers difficiles de réussir, de ne pas dire ce qu'on fera des autres.
Voilà. Alors on va faire un petit peu d'histoire, on va revenir à cette période d'après-guerre, puis de Trente Glorieuses. On va écouter Pierre Larocque dans 2000 ans d'histoire, le 1er septembre 2003.
Dans la période que nous vivions à ce moment-là, il y avait un courant d'idées qui faisait, qui emportait tout. Un esprit de solidarité, né de la guerre et de ses suites, et qui soulevait l'ensemble de l'opinion. Et j'ai eu la chance aussi que le syndicalisme salarié était extrêmement puissant et se résumait essentiellement dans la CGT, et qui groupait à ce moment-là 5 millions d'adhérents, n'est-ce pas ? Il y avait bien à côté des syndicats chrétiens, et qui d'ailleurs au début ont été réticents. Réticents, non pas contre l'institution, mais contre le fait qu'on n'en faisait pas une place suffisante dans le système. Mais tout ça a été absorbé par l'élan collectif de la population ouvrière, et je dirais de la masse de la population.
Alors, Pierre Larocque, qui est décrit comme l'un des pères de la sécurité sociale, il décrit une sorte de nouveau vent idéologique de l'après-guerre avec cette idée d'un État-providence fort.
C'est probablement la seule utilité des guerres, si je peux me permettre.
C'est il y en a plusieurs, hein, selon...
C'est qu'au lendemain des guerres, vous observez, quand vous mesurez les inégalités sociales de la société, de formidables réductions, parce que l'expérience de la guerre a tellement renforcé le sentiment de dépendance mutuelle, de solidarité, de sacrifice, etc., que vous bénéficiez. On a eu la même chose en 1918, et on a cette chose. Alors, je ne voudrais pas en tirer une conséquence un peu désagréable, disant qu'il nous faudrait une bonne guerre pour établir un peu de justice sociale. Mais c'est ce qui s'est passé, en tout cas, en 44. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le problème de la justice est peut-être moins celui des principes de justice que des capacités collectives que nous avons de la vouloir, si je peux me permettre.
Alors, d'un point de vue purement économique, Thomas Piketty a fait les mêmes observations que vous, à savoir que les guerres ont entraîné une sorte de réduction des inégalités, notamment parce que les fortunes se sont un peu affaissées pendant les guerres. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette idée, en tout cas d'une idéologie de redistribution? Là, Pierre Larocque parle du syndicalisme, du nombre d'adhérents dans cette période d'après-guerre. Justement, c'est cette idéologie-là qui prime, celle d'un État qui vient pallier.
Alors, la parole est à la Défense.
Absolument.
Non, je constate que c'est très difficile d'avoir un discours individualiste en France. Et l'individualisme, c'est un mot tout à fait noble. Popper avait tout à fait raison quand il opposait individualisme à collectivisme et d'autre part, égoïsme à générosité. On peut être individualiste et généreux, collectiviste et... Vous voyez, c'est des champs différents. L'individualisme, c'est la manière dont la société s'organise sur la base de l'individu, qui était quand même au fondement de nos sociétés jusqu'à probablement l'émergence de l'État-providence. Et sur l'État-providence dont on vient d'entendre Pierre Larocque parler, je suis désolé de rester très critique, et j'en reviens à la notion de responsabilité qu'on évoquait. Tout le livre de François Ewald sur l'État-providence est très intéressant puisqu'il montre que finalement l'État-providence c'est une sorte de dilution de la responsabilité, c'est l'extension de la dilution de la responsabilité individuelle qui commence à la fin du 19e siècle et qui se propage peu à peu jusqu'au grand système assurantiel. Idée d'irresponsabilité, c'est-à-dire je ne suis pas responsable de mes actes, je peux transférer un système d'assurance à un État ou à quelqu'un d'autre, un dommage par exemple, et qui s'est étendu au point que l'État se met à protéger l'individu contre lui-même. C'est-à-dire qu'on est irresponsable, y compris dans les atteintes qu'on peut s'infliger à soi-même. C'est le grand arrêt du Conseil d'État Bouvet de la Maisonneuve, je la fais courte, qui impose le port de la ceinture de sécurité en disant que les pouvoirs de police ont la possibilité de protéger ceux qui en sont l'objet, c'est-à-dire que l'État peut protéger l'individu contre lui-même. Et ce qui s'entend...
On peut dire ça pour n'importe quelle forme d'interdiction et de prohibition.
Ah ben non, pas du tout. La plupart des interdictions, vous interdisez contre l'atteinte que vous fait autrui. Alors que là, vous interdisez contre l'atteinte qu'on se fait à soi-même. C'est extrêmement différent. Et ce qui était vrai sur le plan physique devient vrai sur le plan moral. Et c'est toute la notion de dignité humaine maintenant que le Conseil d'État utilise pour prévenir les atteintes qu'on pourrait se faire à sa propre dignité. À l'inverse de ça, c'est là que je voulais revenir sur la question des institutions. Il ne s'agit pas de dire, effectivement, de manière un peu béate, que l'individu est responsable de ses échecs et de ses succès, et que à partir du moment où les conditions de concurrence sont égales pour tous, chacun, les chiens sont lâchés et que le meilleur gagne. Il s'agit au contraire de construire des institutions, et c'est là que je pense que l'État et la société ont un rôle majeur à jouer, mais de construire des institutions non pas autour du report de la responsabilité, mais au contraire autour de la naissance et de l'émergence de la responsabilité. Et je vais prendre deux exemples. Premier exemple, celui du microcrédit. J'ai été en reportage une semaine à Lima, dans les bidonvilles, où on fait du microcrédit. Et ça, c'est intéressant aussi par rapport à Piketty, la question du capital. Première option, je tape ceux qui ont le capital pour redistribuer. Deuxième option, je permets au contraire la croissance du capital. C'est la théorie de Soto. Je fais en sorte, moi, État, et ça demande beaucoup de travail, peut-être un travail plus subtil que le travail de restitution, je fais en sorte que les gens dans les bidonvilles aient des droits de propriété. Je fais en sorte qu'ils aient accès au crédit. Je fais en sorte qu'ils puissent transformer leur petite entreprise informelle, pourchassée par la police, en véritable entreprise formelle, reconnue, payant des impôts, ayant un compte en banque, etc. Et donc, je commence à faire émerger une responsabilité chez des gens qui sont parfaitement capables de l'avoir, puisque le taux de défaut dans le microcrédit est beaucoup plus faible que dans le crédit classique, alors même qu'il n'y a pas de collatéral. Ce qui montre que vous construisez des institutions pour permettre aux gens d'être responsables. Je prends un autre exemple, qui est le système pénal sur lequel j'avais enquêté aussi. Le système pénal, quand vous construisez des prisons ouvertes, vous, je vais faire courte, mais enfin, vous permettez aux détenus d'être dans une forme de liberté où ils apprennent à être responsables d'eux-mêmes. Et c'est autour de ça, finalement, que les institutions doivent être construites. Et bien sûr que si le libéralisme a un sens, c'est parce qu'il permet d'aider les plus pauvres, les détenus, les drogués, etc. Mais il va mettre en place des institutions d'une autre nature, qui ne sont pas fondées sur la déresponsabilisation, mais au contraire sur l'individu.
Voilà. Jean-Fabien Spitz.
Je pourrais multiplier les exemples, évidemment.
Évidemment. Cette idée selon laquelle, justement, l'encadrement par l'État serait justement une dépossession de liberté individuelle, elle n'est pas évidente. On peut imaginer que l'État-providence est aussi un rôle libérateur.
Non seulement elle n'est pas évidente, mais enfin, l'encadrement par l'État, c'est ça qui constitue l'autonomie des individus, ça semble assez clair. C'est grâce à un certain nombre de régulations qui encadrent les activités individuelles que les libertés sont réelles. Je voudrais juste vous donner un exemple. Par exemple, aux États-Unis, il y a des lois antidiscrimination qui empêchent l'acheteur d'un bien de signer un contrat qui lui défend de revendre ce bien à une personne de couleur. Autrement dit, le contrat est rigoureusement encadré. Le contractant ne fait pas ce qu'il veut. Il y a une clause qu'il ne peut pas signer, une clause qui aurait une valeur discriminatoire, qui lui interdirait de revendre, par exemple, son appartement à une personne de couleur. C'est nécessaire d'avoir des clauses qui encadrent les contrats de ce genre, parce que nous voulons promouvoir une société dans laquelle il n'y a pas de discrimination raciale. Si au contraire on laissait les gens signer librement les contrats qu'ils veulent, on pourrait annexer à ces contrats des clauses qui défendent à l'acheteur de revendre à une personne de couleur, et on obtiendrait une ségrégation raciale parfaite dans les quartiers, dans les immeubles, et ainsi de suite. Donc on a besoin de clauses qui encadrent les activités individuelles de manière à produire une certaine société égalitaire.
Mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas une confusion entre cette idée de responsabilité ou de déresponsabilité de l'individu
sur
et cette idée de liberté globale?
Je voudrais juste vous donner un exemple. En 1898, en France, lorsqu'on a introduit la première loi sur de protection sociale sur la garantie des accidents au sein des entreprises. Ça a été le début, disons, d'un État protecteur. Les Américains, par exemple, ont fait, au début du XXe siècle, des statistiques très très intéressantes prouvant que 80% des accidents du travail dans les entreprises se produisent dans les deux dernières heures de la journée de travail. Ce qui prouve que vous ne pouvez pas imputer la responsabilité de l'accident à celui qui travaille, mais bien au rythme dans lequel il est pris et à l'organisation dont il est membre. Donc vous ne pouvez pas dire, vous êtes entré dans une entreprise, vous avez signé un contrat qui vous fait assumer la responsabilité des dommages qui vous seront occasionnés par les accidents, ou même la responsabilité des dommages que vous imposerez à d'autres. On ne peut pas faire ça, puisqu'on voit bien que ce ne sont pas les individus qui sont responsables des accidents qui surviennent, mais le type de travail auquel ils sont astreints. Et donc il est logique que la responsabilité de ces accidents, des dommages qui sont occasionnés, aussi bien aux personnes qui travaillent qu'à d'autres, soit assumée par la collectivité. Donc l'employeur le prend en charge, puis le transmet dans ses prix, et la société tout entière assume la responsabilité des accidents du travail dans une organisation industrielle qui comporte des dangers.
Donc est-ce qu'on peut admettre qu'il y a une logique plus importante que celle de l'individu qui vienne le protéger, faisant d'ailleurs profitant aussi des observations scientifiques?
Mais c'est même pas une question de protection. C'est même pas une question de protection. Aujourd'hui, un individu, c'est un maillon dans une chaîne de gens qui sont interconnectés et dont il est impossible d'évaluer les responsabilités, les actions indépendamment de celles des autres.
Oui, là,
donc il s'agit pas de protection, il s'agit d'intégration.
Vous dites que le libre arbitre pour vous est une fiction.
Non, c'est pas une fiction.
Bah, si,
c'est pas une fiction. Il faut être rendu libre de faire ce que nous pouvons.
Difficile
de penser
l'individu en dehors de toute société, quand même. Enfin, c'est pas François Dubé qui va me contredire sur ce point, je pense.
Non, mais je trouve qu'on est dans un débat tout à fait étrange. Il est évident que le modèle, appelons-le social-démocrate, a été un modèle de promotion de l'individu capable d'agir le plus possible en lui donnant les ressources pour agir dans un système d'institutions, de règles et de contraintes. Il ne pouvait pas partir en vacances, il peut partir en vacances, il ne pouvait pas éduquer ses enfants, il peut éduquer ses enfants, il ne pouvait pas soigner, il peut soigner, on augmente sa liberté.
C'est un modèle fondamentalement individualiste.
Et je voudrais quand même faire une remarque, c'est que sur le modèle qui a été présenté tout à l'heure, on a eu quand même des grandes politiques dans des pays riches, d'affaiblissement d'État-providence, de culpabilisation des pauvres, la culture du pauvre, etc., etc. On a eu ça. Les inégalités sociales se sont considérablement renforcées. La part de pauvreté s'est considérablement renforcée. Et je voudrais dire que la part des prisons s'est aussi considérablement renforcée. Donc, il y a quelque chose d'étrange, non, en dehors, c'est pas un procès que je vous fais, en dehors de l'horizon philosophique, c'est que les pratiques réelles qui s'en inspirent, sont des pratiques qui libèrent le marché du travail, qui affaiblissent la providence, et comme ça crée de la violence, de la frustration, de la méchanceté, du ressentiment, etc., on enferme. Donc, on est quand même dans une grande difficulté. C'est-à-dire que la nécessité d'un État de plus en plus actif pour maintenir ce principe de liberté, donc je ne sais pas trop ce qu'il signifie, est quand même troublante. Après tout, on a défait l'État-providence et fait des prisons. Partout.
Gaspard Koenig.
Oui, alors d'abord, moi je ne considère pas que les politiques qui sont menées depuis les 30 dernières années en Occident sont des politiques libérales ou néolibérales. Je pense que le terme néolibéral...
Il arrive que ça ressemble.
Ça dépend de quel pays on parle et dans quel système on parle.
Non, mais même en général, quand on décrit la grande vague, quand même la mode c'est de décrire cette grande vague de néolibéralisme, de prendre l'état de la société actuelle qui effectivement n'est pas fameux et de dire, regardez, c'est la conséquence des politiques néolibérales. Selon moi, c'est l'utilisation du... D'ailleurs, ce qui a aussi...
Donc Thatcher régale le tournant des années 80, c'était pas un tournant libéral.
On pourrait rentrer dans mais c'est bien ce qu'a montré Serge Audier aussi, c'est que ce terme de néolibéralisme est utilisé absolument n'importe comment, comme un épouvantail, il ne décrit aucune réalité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un système néolibéral quand vous avez 57% de dépenses publiques. Je suis désolé, vous pouvez pas, vous devez, c'est pas pour ça que c'est bien ou pas bien d'avoir 57% de dépenses publiques, mais factuellement, vous devez trouver un autre modèle d'interprétation. Vous êtes 57% de dépenses publiques, 47% de taux de fiscalité les plus hauts jamais enregistrés en temps de paix, et le plus haut de l'ensemble des pays de l'OCDE. Vous n'êtes pas dans un modèle de la dérégulation complète. Et sur la finance, c'est pareil. Il y a d'énormes problèmes dans la finance. Pour moi, il y a des problèmes d'oligopole qui sont entraînés par des régulations qui créent des collusions entre l'État et les acteurs bancaires. C'est pas un problème de dérégulation. Au contraire, la finance est hyper régulée. C'est pour ça qu'elle peut se constituer en oligopole. Donc, vous voyez, il faut, je pense, sortir un peu des idées reçues sur nous sommes dans une société néolibérale. Ensuite, sur je voudrais reprendre l'exemple des discriminations qui me paraissent intéressant, parce que je voudrais montrer qu'un autre raisonnement est possible, y compris sur la question des discriminations. Vous vous dites qu'il faut lutter contre les discriminations par inscription dans la loi de clauses. Évidemment qu'on veut tous lutter contre les discriminations, d'accord ? Maintenant, vous dites on va inscrire des clauses dans les contrats, enfin, on va interdire un certain nombre de clauses dans les contrats. Il y a un chapitre très intéressant et que je trouve très valide et très difficile à réfuter, même s'il est un peu simpliste, dans Capitalisme et Liberté de Friedman, sur la question des discriminations. Et il parle justement des discriminations à l'embauche. Et dit, est-ce qu'il vaut mieux? Donc, effectivement, dans un système où on embauche davantage, par exemple, les blancs que les noirs, les gens qu'on voilà. Il dit, si on multiplie les critères, on va effrayer les employeurs, ralentir les embauches, asphyxier, si vous voulez, le marché du travail. Et donc, finalement, ça va renforcer la pauvreté dans les quartiers les plus défavorisés. Ce qui se passe exactement aujourd'hui, vous avez un marché du travail fermé pour qui? Pour les types des banlieues qui sont les premiers à sauter sur les libéralisations du marché du travail qui, heureusement, commence à arriver.
Et en même temps, si ces mesures ont été prises, c'est parce qu'on avait observé aussi une discrimination.
Mais l'inverse, oui, mais si vous voulez, ça les renforce. C'est comme la carte scolaire. Alors que si vous dites, si vous êtes dans un système, mettons, théorique, si vous voulez, complètement contractualiste, où vous déterminez les conditions de licenciement dès l'embauche, et où donc vous n'avez pas de droit du travail qui vient chapeauter le contrat librement conclu entre deux volontés consentantes. À ce moment-là, vous n'avez plus de discrimination parce que l'employeur n'a plus peur de prendre un risque. L'employeur va dire, j'avais peur de prendre quelqu'un d'une couleur différente de la mienne, ou d'un sexe différent du mien, ou d'une culture différente de la mienne, parce que finalement, c'était l'étranger, et j'étais un peu inquiet, d'accord ? Parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on est dans un environnement nouveau et que finalement, dans ces cas-là, on va vers ses habitudes. Mais dans la mesure où je peux licencier à tout moment, admettons.
Ça présume quand même d'un employeur rationnel, équitable.
Non, mais oui, mais justement, ça présume que les motifs économiques vont, pour un employeur,
primer
sur toute considération d'ordre idéologique ou racial, parce que finalement, ce qu'il a envie, c'est que son entreprise marche.
Rien ne dit que ce système soit
plus valide. Et à ce moment-là, dans un système ouvert, eh bien, vous allez embaucher beaucoup plus facilement des gens d'une culture étrangère, d'un nom étranger, d'une couleur d'un quartier différent, parce que vous pourrez également vous en séparer beaucoup plus facilement, et donc c'est du contractualisme. Alors, je sais que c'est poussé un peu à l'extrême, mais ce que je voulais dire, c'est qu'un autre raisonnement est possible et que ces raisonnements ne sont pas absurdes. Et
c'est tous ces raisonnements de l'école autrichienne,
oui.
Alors vous inspirez notamment de Ludwig von Mises.
Et encore une fois, et moi je dirais qu'il y a, donc il y a cette école autrichienne. Je voudrais revenir juste, même si ce n'est pas le thème de ce débat, une seconde sur le revenu universel, parce que pour les...
On va laisser quand même peut-être aussi François Dubé et Jean-Fabien Spitz réagir à ce qui a été dit.
D'un mot, évidemment, moi je n'ai aucune raison de m'opposer à ça, et je crois que dans un certain nombre de domaines, on change plus les pratiques en ouvrant le jeu qu'en le fermant. Donc j'ai pas une position de principe là-dessus. En particulier, je crois qu'on ne peut plus maintenir la carte scolaire et que mieux vaut jouer sur la qualité de l'offre scolaire que sur une réglementation que de toute façon avec laquelle tout le monde triche. Donc je ne suis pas opposé. Mais quand j'entends dire deux acteurs également libres négocier un contrat de travail, je pense à Marx, à Engels, à Manchester en 1840. Je pense qu'au marché du travail aujourd'hui, en fait, tout ça est une fiction.
Surtout, elle met sur pied un pied d'égalité des acteurs qui ne sont pas sur un pied d'égalité au départ.
Qui ne sont pas sur un pied d'égalité du tout. Mais effectivement, il y a eu des... Je me rappelle les roulants de la SNCF, des chemins de fer en 1910, négociant leurs conditions de travail parce qu'ils sont rares face à des compagnies demandeurs. Ils étaient effectivement en position tout à fait dominante. Mais... Dans l'ensemble, les gens peu qualifiés sont en position de domination à peu près absolue sur le marché du travail. On ne peut pas complètement l'ignorer.
Jean-Fabien Spitz.
Oui, bien entendu. C'est un discours aussi très très ancien, selon lequel les pratiques d'ouverture du marché et de libération, lorsqu'elles produisent des effets que l'on perçoit comme négatifs, leurs partisans disent « Ah oui, mais c'est parce qu'elles n'ont pas été poussées assez loin. » Donc c'est parce que le remède n'a pas été administré avec assez de puissance qu'il ne fonctionne pas. Il faudrait l'administrer avec encore plus de force pour qu'il fonctionne. C'est un raisonnement qu'on entend depuis très longtemps.
C'est au libéralisme ce que la pensée Mao Tse-tung.
Oui, à peu près. Mais ce que je voudrais dire
aussi,
c'est
que... Alors c'est de l'idéologie qui soutient ces principes. Est-ce que la liberté justement, en économie, en politique,
il y a une offensive idéologique
uniquement
qui est
de l'idéologie.
Ce que je voudrais rebondir aussi sur ce que François Dubé a dit à propos de l'inégalité des positions. Là aussi, il y a une très vieille histoire, disons, de l'intégration des droits syndicaux à l'intérieur du monde de l'entreprise. Il a fallu attendre l'entre-deux-guerres, par exemple, aux États-Unis, pour que la Cour suprême aux États-Unis reconnaisse qu'un employeur n'a pas le droit de licencier un employé parce qu'il appartient à un syndicat. Il a fallu attendre l'entre-deux-guerres. En 1915, encore, il y a une décision de la Cour suprême, Carpage versus Kansas, qui dit que la liberté de l'employeur est complète. Et bien entendu, dès le moment, au moment de 1935 et du New Deal, où les ouvriers, les employés ont pu négocier collectivement leurs contrats grâce à des organisations syndicales dont la présence était légalisée à l'intérieur de l'entreprise, grâce aux mesures prises par Roosevelt, le niveau de vie des salariés et des employés, d'une certaine manière, a monté. Et la répartition des richesses s'est rééquilibrée en fonction du monde du travail. Ce qui est une excellente chose, parce que les inégalités sont nocives pour une vie collective lorsqu'elles prennent une dimension qui est excessive. Or, le contrat libre, le marché laissé à lui-même, génère, à cause de l'asymétrie des positions qui est cumulative, il ne faut pas l'oublier, cumulative, génère des inégalités qui sont socialement insupportables. Et ce qui est inacceptable, si on veut, c'est d'accepter...
Et qui ont été jugées plus ou moins insupportables selon les époques.
Oui,
c'est important de le dire.
Justement, j'y venais. C'est d'appliquer un marché sur lequel agissent des acteurs qui sont profondément asymétriques, des principes de réflexion et de philosophie qui sont applicables à un marché où sont face à face des acteurs qui sont relativement dotés de puissance de négociation égale. Si vous lisez Adam Smith, évidemment, il n'imaginait pas que des monopoles ultra-puissants, comme ceux que l'on voit agir aujourd'hui, confrontent des gens qu'ils emploient. Il imagine un monde d'acteurs qui sont relativement égaux ou dont les puissances sont relativement comparables, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc le principe de la libre contractualité est valable entre acteurs qui ont des puissances de négociation relativement comparables, mais pas entre acteurs qui ont des puissances de négociation absolument pas comparables. Si vous voulez, je voudrais encore donner un exemple. Aux États-Unis, par exemple, de très grandes compagnies ont absolument étranglé des producteurs en disant « on ne vous fournit pas jusqu'à ce que vous mouriez ». C'est une puissance sur le marché qui est incroyable. Alors évidemment, ces pratiques-là doivent être combattues. Elles sont anticoncurrentielles, bien entendu.
Mais pour moi, elles doivent être...
Gaspar Koenig.
Précisément, ces monopoles, ces oligopoles doivent être combattues au nom du principe de libre concurrence. Parce que
oui, mais combattues comment? Bien par l'encadrement, par la régulation.
Oui, mais tout à fait. Mais on a dit dès le début, on disait que le libéralisme,
il y en avait toujours
vous-même, il y a un État, etc. Et le colloque Lippmann, à la fin des années 30, les libéraux reconnaissent, contre le laissez-faire manchesterien, que l'État a un rôle, notamment dans la régulation de la concurrence, pour éviter la formation de monopoles, d'oligopoles, d'où le rôle des autorités de la concurrence, par exemple en Europe ou en France aujourd'hui, qui pour moi font plutôt un bon travail.
Mais alors, elle est où la frontière, justement?
Elle établit précisément, elle permet toujours aux plus faibles, elle donne du pouvoir aux plus faibles, cette concurrence, parce qu'elle permet aux nouvelles entrants de venir défier le fort, le gros. C'est ce qui se passe avec Google et Quant aujourd'hui. Je ne sais pas si ça marchera au final, mais c'est bien ce qu'essaye de faire la Commission européenne. Elle essaye de donner du pouvoir à l'outsider en lui donnant les moyens de venir concurrencer parce qu'elle considère qu'il y a eu un abus de position dominante ou parce qu'elle considère qu'il y a une asymétrie d'information, ou etc., etc. Et ça, je trouve que c'est parfaitement du rôle du régulateur, c'est l'ordolibéralisme allemand est également fondé là-dessus. Et donc, effectivement, vous disiez, il y a une asymétrie, Jean-Fabien Spitz, des positions, une asymétrie d'information qui est inacceptable, bien sûr, mais donc c'est bien pour ça que, un, il faut faire jouer la concurrence, que deux, on remarque que dans des marchés relativement libres, eh bien, précisément, vous redonnez des pouvoirs de négociation aux plus faibles. C'est le cas, par exemple, en Angleterre, où avec un chômage qui est maintenant un chômage quasiment qui est réduit à son niveau structurel.
Comptabilisé.
Eh bien, on a vu récemment, enfin j'avais vu ça, que les salaires les plus faibles repartaient à la hausse parce que les futurs employés retrouvaient un pouvoir de négociation dans un marché fluide, y compris dans les postes les moins qualifiés, vis-à-vis de leurs employeurs. Et enfin, la troisième pierre à cet édifice, qui pour moi absolument important dans les systèmes de demain, qui sont des systèmes beaucoup plus contractualistes, parce qu'on est dans une société qui se dégage du salariat et où de plus en plus les individus contractent via des plateformes ou sans plateformes, vont contracter entre eux de manière complètement indépendante. Donc il faut de toute façon, qu'on l'aime ou non, reconnaître l'émergence de cette société et voir comment on la traite plutôt que de la réintégrer dans le schéma classique de la société industrielle avec des syndicats, des employés, des secteurs d'activité bien définis. Et bien dans cette société-là, le revenu universel est quelque chose d'absolument fondamental pour donner aux gens le pouvoir de dire non.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là, Gaspar Koenig ?
Eh bien, à partir du moment où vous garantissez à vie, parce que là, on a des systèmes d'État-providence qui viennent combler les trous.
État-providence qui, quand même, s'est amoindri depuis ces dernières années.
Je ne sais pas, en quantité, ça se discute, mais je trouve qu'il est très mal fichu. Si vous prenez le RSA, par exemple, vous avez un tiers ou deux tiers, ça dépend des modes de calcul, des gens qui ne le demandent pas, parce que c'est compliqué, c'est intrusif, et c'est des systèmes qui étaient conçus sur l'accident. C'est-à-dire que normalement, vous étiez employé dans une entreprise, et quand vous en sortiez, parce que c'était un accident de parcours, eh bien, on venait à votre soutien avec ce genre de dispositif. Du coup, il faut les demander, c'est compliqué, il faut remplir des formulaires, ça dépend si vous êtes en famille, pas en famille, et si vous reprenez une activité qui n'est pas un CDI, ce qui est du temps, le cas de ces gens-là, bah, vous perdez le bénéfice de votre allocation, il faut aller la redemander. C'est comme ça que s'ouvre le roman de Virginie Despentes, c'est ce que dénonce Ken Loach très bien dans son film qui a eu la Palme d'Or. C'est un vrai phénomène de société que ces systèmes d'État-providence, aussi généreux soient-ils, ne marchent plus et sont humiliants pour les gens. Le revenu universel balaye tout ça, donne à chacun. Après, on peut discuter du mode de financement de tout ça, mais l'idée, c'est donne à chacun de quoi assurer dignement sa subsistance, tout en faisant ses propres choix, puisqu'il donne de l'argent, il donne du cash, et lui donne toujours le pouvoir de dire non. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai ce revenu garanti à vie, je peux dire non à mon employeur qui m'offre un mauvais salaire pour aller curer les toilettes du quai de Ouistreham, comme dans le livre de Aubenas. Je peux dire non à ma famille, et la femme peut partir du domicile conjugal parce qu'elle aura un revenu. Et donc, vous donnez aux gens le pouvoir de s'abstraire de leur famille, de leur employeur, voire de leur société. Et quand on parlait de la société, je reboucle avec ça, qu'on disait, voilà, vous citiez la phrase de Margaret Thatcher, il n'y a pas de société. Je pense que la société sera d'autant plus forte qu'elle ne se construira pas au niveau politique, mais au niveau civil. Disant non, l'État n'est pas fait pour gérer, définir ou organiser la société. Il est effectivement là uniquement fait pour organiser le libre jeu des individus dans de manière paisible. En revanche, la société, la famille, elle se construit, mais elle se construit de manière organique, endogène. Elle définit ses valeurs de manière civile, voilà, sur le champ civil. Et
François
le revenu universel est une arme pour ça.
François Dubé, est-ce que c'est l'égalité des ressources qui rend libre ?
Non, d'abord le mot égalité doit être pris avec une certaine prudence. Personne n'a jamais vraiment été égalitariste. C'est-à-dire que quand on dit égalité, ça veut dire nous tenir dans un espace raisonnable d'inégalité sociale qui maintient au fond le sentiment de vivre dans le même monde. Je crois que ça serait ça l'égalité. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes montrent que les gens pensent qu'un ordre d'inégalité de 1 à 4 est l'ordre dans lequel on peut vivre. C'est pas franchement l'égalité absolue, mais de 1 à 4, on vit dans le même monde dans cet ordre-là. Bon, ça c'est la première chose. Évidemment, ce qui pose un problème dans ce qui est dit, c'est que d'une certaine façon, vous d'une part, vous donnez aux individus un revenu minimum à partir duquel vous n'êtes plus responsable d'eux. Alors, ça est très bien, c'est-à-dire, je le bois, je le fume, etc., etc.
Tout à fait.
Mais vous n'êtes plus responsable d'eux parce que vous considérez que ce sont des sujets parfaitement libre, etc., etc. Bien. Et la seconde chose, c'est que j'ai beaucoup de mal, mais là, c'est sans doute un effet de sénilité. Mais j'ai beaucoup de mal à imaginer ce qu'est une société dans laquelle une partie produit des richesses et par un effet de bonté d'âme qui, à mon avis, ne durera pas du tout, maintient l'autre dans un niveau de pauvreté relative. Je reste persuadé que, au fond, il y a eu deux grands modèles d'organisation de la vie sociale. C'était patrimonial, on est défini par ses filiations, ses liens, ses les mondes. D'ancien régime, pour dire les choses, et le travail.
Y compris économiquement,
l'héritage. Et je trouve qu'on ne peut pas se débarrasser, mais sans doute suis-je un peu coincé, mais on ne peut pas se débarrasser de l'idée que le travail est le principe organisateur, au fond, des identités, des liens et des relations. Donc, accepter d'emblée l'idée qu'une partie des individus ne travailleront pas et seront maintenus en état de survie par
peut-être que le revenu universel n'induit pas nécessairement que les gens ne travailleront pas. Peut-être que c'est de sa séparation entre le salaire et le travail. Jean-Fabien Spitz. Voilà.
Oui, sur le revenu universel, je crois qu'il y a deux choses à dire. Il y a quand même quelque chose qui est réel, c'est que les emplois risquent de devenir un bien rare et qu'il faudra composer avec cette réalité.
C'est déjà un peu le cas.
C'est déjà un peu le cas. Donc, le revenu universel est une réponse potentielle à ce genre de problème.
Il sera peut-être déconnecté du travail.
Donc, il est possible que le revenu et le travail soient déconnectés, que ça soit quelque chose qui se produise dans un avenir plus ou moins proche. L'autre chose, c'est que il faut pas rêver sur le revenu minimum inconditionnel. C'est-à-dire de deux choses une. Ou bien c'est un type de revenu qui permet aux individus de se retirer durablement du marché du travail. Mmh. Et à ce moment-là, il est incompatible avec le fonctionnement d'un marché du travail et de ce que nous appelons le capitalisme. C'est incompatible. Mmh. Ou bien c'est un revenu de subsistance. Et à ce moment-là, ça maintient une partie de la population dans une pauvreté relative. Et c'est extrêmement condamnable. Donc, ça n'est pas une solution miracle, ça ne peut pas en être une.
J'aurais un dernier principe que j'aimerais mettre en concurrence avec ceux qu'on a évoqués, c'est aussi la montée d'un désir d'assurer une forme de sécurité plus importante. Est-ce que justement la sécurité est devenue un principe qui entre en concurrence avec la liberté et l'égalité, peut-être plus qu'elle ne l'était dans la période des Trente Glorieuses, dans la période même du tournant des années 80, François Dubé?
Bon, il me semble que de toute façon, l'État-providence a eu une telle puissance qu'il a fait que ce soit un état de sécurité. On est garanti, protégé. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui crée un sentiment de quasi-panique morale, c'est moins le développement d'un point de vue des inégalités que le sentiment d'insécurité sur les conditions écologiques, les conditions de travail, les transmissions d'une génération à l'autre. Donc, si on raisonne, si on pense qu'une société, c'est pas la manifestation d'un marché, simplement, mais qu'une société a quelque chose d'ordre moral, culturel, sentimental, un peu désagréable même, il faut bien, je crois, tenir aussi le thème de la sécurité. On doit garantir aux gens, les acteurs doivent prendre des risques, évidemment, mais on doit garantir, que, je répète, la bonne société, au fond, c'est celle qui fait que les vaincus s'en tireront le mieux possible. D'une certaine façon, c'est du rôle, ce que je vous raconte.
Quelques minutes.
Juste un tout petit mot sur le revenu universel. On a tendance j'entends ce discours que les gens les plus démunis ne seraient pas capables d'être responsables d'eux-mêmes et qu'ils iraient boire...
C'est pas ce qui a été dit. Hein.
Un petit
pas
peu,
entendu
en disant
personne,
le risque c'est qu'ils aillent.
En fait,
le risque c'est qu'ils aillent. Non, mais
tout.
Je l'entends par ailleurs. Je l'entends par ailleurs. Moi, j'ai été dans un petit village brésilien où ils font une expérimentation de revenu universel. Il y en a plein d'expérimentations de revenu universel, mais enfin, en l'occurrence, c'était des gens qui étaient à peu près analphabètes. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que vous confirmez deux principes qui sont très, finalement, positifs sur la nature humaine. C'est que, un, les gens utilisent leurs revenus d'une manière qu'on pourrait définir comme rationnelle. Enfin, en tout cas, personne, et surtout pas les gens qui sont dans des conditions difficiles, ne s'amusent à aller acheter des cartes de loto. Et que, deuxièmement, ils l'utilisent d'une manière qu'on n'aurait pas pu anticiper parce que chacun l'utilise à sa manière, parce que les besoins des individus sont tellement différenciés que vous ne pouvez pas les cadrer dans un système commun.
Pour conclure,
je dirais sur la sécurité, c'est vrai qu'on parle énormément de prise de risque. On parle des entrepreneurs, qu'il faut prendre des risques, il faut prendre des risques. La vérité, c'est qu'on est dans une société qui n'a jamais aussi peu pris de risques parce que le système assurantiel se développe maintenant même au-delà de l'État-providence via toutes sortes de schémas compliqués d'assurance privée que la technologie renforce et que j'ai peur de vivre dans un monde où chacun aura un bracelet électronique pour monitorer sa santé du matin au soir et ajuster sa prime de risque en fonction.
Assurance d'ailleurs garantissant aussi les risques du marché. On l'a vu aussi en matière de finances.
Oui, ça vous pouvez toujours vous assurer contre les risques de marché, c'est une décision libre. Oui.
Non, mais je veux dire, c'est un phénomène qui a été particulièrement observé aussi dans certains types d'économies. Justement, dans le domaine de la finance, la recherche d'assurance s'est déclinée aussi dans cette question de libéralisation d'un côté et puis garantie de l'autre.
Oui, bah, je vous dis, le marché assurantiel est florissant. On assure tout. Maintenant, aux États-Unis, il y a même des reventes d'assurance vie qui sont moralement extrêmement gênantes, mais qui sont néanmoins, encore une fois, le choix des acteurs. Et donc, il faut, de cette manière, ne jamais laisser la morale empiéter sur, je dirais pas le marché, mais simplement sur la libre association des individus.
C'est une formule qu'il faudra assumer.
Non, mais c'est pas le marché, c'est les échanges marchands, finalement.
Et c'est l'heure des nouvelles de l'écho. Mounia Van de Castel, bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous.
L'histoire du jour.
Bien, c'est celle des notaires. Hein. Dans le thème de la régulation, voyons un peu où en sont les notaires dans le cadre de l'évolution des professions réglementées. Alors, plus de 2 ans après la loi pour la croissance et l'activité du 6 août 2015, qui devait entrouvrir à la concurrence cette profession de notaire, seuls 600 nouveaux professionnels ont été nommés en France. Ce qui représente en fait 40% de l'objectif qui était fixé pour la mi-novembre. Alors, rappelons en effet que cette loi dite Macron, initiée par l'actuel président de la République lorsqu'il était aux manettes de Bercy, prévoyait l'installation libérale de 1650 notaires à mi-novembre 2017, c'est-à-dire une augmentation du nombre des notaires en France de 20%. Alors, admettant un retard important sur le calendrier fixé par la loi, la chancellerie se dit mobilisée pour atteindre l'objectif de création d'un millier de nouveaux offices avec un délai supplémentaire. Le ministère précisera donc bientôt le calendrier d'une seconde phase de nomination qui sera lancée pour nommer ces 1650 professionnels libéraux au printemps 2018.
Concrètement, qu'est-ce qu'elle change cette loi ?
Bien, auparavant, il fallait soit racheter une très onéreuse charge, soit accéder par concours à l'une des rares places vacantes ou créées. Alors, entre 2005 et 2013, hein, en l'espace de 8 ans, pour vous donner une idée, on en a recensé seulement 60. Alors, qu'en dit l'autorité de la concurrence ? Eh bien, que cela a conduit à un malthusianisme de fait, se traduisant par un vieillissement de la profession, 49 ans en moyenne, de fortes barrières à l'entrée pour les jeunes diplômés et un maillage territorial inadapté.
Est-ce qu'on sait d'où vient le retard sur ce calendrier initial ?
Eh bien, déjà, la procédure de nomination est assez complexe et elle repose sur des tirages au sort menés par le ministère de la Justice, qui sont supervisés par le Conseil supérieur du notariat, aux côtés de l'autorité de la concurrence. Or, un certain nombre de professionnels tirés au sort se sont désistés, ce qui a encore ralenti l'application de la loi. Car pour avoir une chance d'obtenir un office, la plupart des aspirants notaires ont lancé des candidatures multiples. Il y en a eu près de 30 000. Mais une fois nommé quelque part, il faut alors renoncer à l'être ailleurs. Or, certains endroits, hein, les zones rurales particulièrement, sont difficiles à pourvoir. C'est là où, économiquement, il n'est pas évident de s'installer.
Et dans les zones plus prisées, la concurrence est rude.
Bien, en effet, d'ailleurs, le principal sujet d'inquiétude des jeunes notaires candidats est de voir les professionnels déjà installés, qui sont autorisés à se porter candidats eux aussi, capter un grand nombre de nouveaux offices. Et de jeunes notaires fraîchement installés vont sûrement faire face à des déboires financiers. Hein, c'est le jeu de l'entrepreneuriat. Quant aux notaires déjà installés, ils craignent, et en partie à juste titre, les conséquences économiques de l'émergence de cette nouvelle concurrence. Certaines études vont être amenées à partager leur marché et leurs bénéfices. Alors à cet égard, rappelons que l'une de leurs sources de revenus se porte bien. Le marché immobilier ancien s'apprête à battre tous les records en 2017 après une année 2016 déjà exceptionnelle. Avec les contrats de mariage et les successions, les ventes représentent en effet les 3/4 de leur mission. Les notaires percevant 1 à 2% du montant des ventes, le reste des frais de notaire correspondant aux taxes collectées pour le trésor public. Mais le revenu médian des notaires est quand même de 197 000 euros net annuel selon l'INSEE. On n'a pas trop à les plaindre.
Et comme aujourd'hui c'est jeudi, nous donnons également la parole à Guillaume Duval, directeur de la rédaction d'Alternatives économiques, dont nous sommes partenaires, qui est parmi nous et qui va nous parler du chiffre du jour. Bonjour Guillaume.
Bonjour. 20 032%, c'est le chiffre que j'ai choisi. C'est la proportion du PIB luxembourgeois que représentent les actifs financiers, actions d'entreprise, dettes d'État, détenues à l'étranger à partir du Luxembourg. En Europe, le Luxembourg est suivi par Malte, l'Irlande, Chypre et les Pays-Bas, si on prend cet indicateur. Venant après d'autres, le scandale des Paradise Papers a confirmé, s'il en est besoin, le rôle de ces paradis fiscaux. Quand on parle de liberté en économie, l'une des plus dommageables aujourd'hui est incontestablement la liberté de circulation des capitaux.
Qu'est-ce qu'on peut dire justement ? Est-ce que c'est pas une concurrence entre systèmes fiscaux ?
Non, cette concurrence est fondamentalement malsaine. C'est elle qui pousse à remettre en cause les acquis sociaux au nord, tout en empêchant d'améliorer la situation des populations au sud. Cette concurrence mine aussi en profondeur la construction européenne. Elle permet en effet aux riches et aux multinationales de concentrer de façon largement fictive leur patrimoine et leurs revenus dans des territoires tout petits et peu peuplés. Ceux-ci ont donc peu besoin de prélever des impôts pour produire des biens collectifs, mais ce faisant, ces paradis fiscaux privent les grands pays comme la France ou les pays du Sud en croissance des moyens nécessaires pour produire les biens publics, écoles, santé, infrastructures, dont ils ont absolument besoin. Du coup, ces pays sont obligés de concentrer les impôts sur les plus pauvres, créant ainsi un sentiment d'injustice croissant.
On en parle depuis des années, on a l'impression que pas grand-chose ne change.
C'est pas tout à fait vrai. Ces paradis fiscaux ne pèsent jamais lourd sur le plan géopolitique. Si la France et l'Allemagne se mettent d'accord, il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de divisions pour mettre le Luxembourg au pas. Il est aussi en réalité très facile de savoir ce qui s'y passe. Aucun problème en effet pour tracer une transaction électronique, comme nous l'ont appris la NSA et Edward Snowden, nettement moins que naguère quand il fallait suivre une valise de billets. En fait, si on ne s'est pas attaqué plus tôt et plus fort aux paradis fiscaux, c'est uniquement parce que les dirigeants des grands États ne souhaitaient pas faire de peine à leurs riches, qui financent souvent leur campagne électorale, ni à leurs entreprises multinationales qui s'en servent pour planquer leurs bénéfices. La bonne nouvelle, c'est que la crise de 2008 a quand même changé la donne. Elle a aggravé en effet la situation des finances publiques des grands États, tout en dopant les mouvements populistes qui protestent contre l'aggravation des inégalités. Du coup, les dirigeants des grands pays ont bien été obligés cette fois de s'attaquer au problème. Cela s'est traduit notamment par les travaux du G20 sur le sujet, avec des résultats. Le secret bancaire suisse a sauté finalement, et seule l'île de Trinité et Tobago dans les Caraïbes refuse aujourd'hui d'appliquer le nouveau standard sur les échanges d'informations entre États. Les Paradise Papers soulignent certes, à juste titre, qu'on reste encore très loin du compte en la matière, mais sous la pression de l'opinion publique, on peut et on va y arriver.
Indira, Zara, la musique envoûtante de fin de semaine de Marie Placé. Merci à vous François Dubé, merci Gaspard Koenig et merci Jean-Fabien Spitz, d'avoir accepté de venir débattre avec nous. Petit rappel de vos ouvrages, François Dubé, La préférence pour l'inégalité, comprendre la crise des solidarités aux éditions du Seuil. Gaspard Koenig, révolutionnaire, l'expert, le révolutionnaire, l'expert et le geek chez Plon. Et vous publiez Time to Philo chez Larousse. Jean-Fabien Spitz, vous êtes l'auteur de Leçons sur l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau aussi et Les fondements du système aux éditions Ellipse. Vous pouvez réécouter nos émissions à vie et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur le site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter @mbesri, hashtag Entendez-vous l'écho en un mot, et sur Facebook. Demain, à la même heure, ce sera Métronomique, présenté par Amaury Chardot.